Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Sciences Po Paris supprime son concours d'entrée au nom de la discrimination positive. Le recrutement des élèves se fera sur dossier. Les explications d'Hakim Kasmi dans un instant. Une première juridique en France. Un tribunal reconnaît la faute de l'État dans la lutte contre la pollution de l'air. À l'origine de cette décision historique, une mère et sa fille, victimes de troubles respiratoires, alors qu'elles vivaient près du périphérique parisien. Dossier suivi par Charlotte Piret. La canicule que nous vivons augmente cette pollution atmosphérique. Le gouvernement se dit pleinement mobilisé pour répondre à l'urgence climatique. Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique, est l'invité de ce journal. Le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, promet 50 milliards de dollars pour la paix au Proche-Orient. Le plan américain est rejeté par les Palestiniens. La correspondance à Jérusalem d'Étienne Monin. C'est la fin d'une époque à Sciences Po Paris. La prestigieuse école parisienne va supprimer son concours d'entrée à partir de 2021. La sélection se fera désormais sur dossier. Avec cette révolution, Sciences Po Paris espère diversifier le profil de ses élèves en s'ouvrant davantage aux classes sociales les plus modestes. Hakim Kasmi, l'école fait donc le pari de ce que les Américains appellent la discrimination positive.
L'école y pensait déjà depuis 2 ans. Terminé donc le concours d'entrée en première année. Désormais, l'école s'appuiera sur 4 critères. Les notes au contrôle continu, durant la scolarité au lycée, les résultats au bac et la motivation des élèves. Les candidats devront également passer un grand oral qui comptera pour 1/4 de la note. Des mesures qui vaudront aussi pour ceux qui viennent de l'étranger. Des procédés inspirés en partie de la filière égalité des chances créée par Feu Richard Descoings qui voulait intégrer des jeunes issus des établissements de zones d'éducation prioritaire. Ce qui lui avait valu, à l'époque, au début des années 2000, des critiques très virulentes. La discrimination positive, une politique qu'assume le directeur de Sciences Po, Frédéric Mion, qui espère ainsi, avec cette réforme, doubler le nombre de boursiers pour passer à 30%. Il souhaite également élargir le nombre de lycées partenaires de la convention Sciences Po au-delà des zones d'éducation prioritaire pour l'élargir également aux établissements périphériques et de zones rurales. Avec un objectif, lutter contre le phénomène d'autocensure chez ces jeunes. Enfin, avec la réforme, les inscriptions seront également directement accessibles sur la plateforme Parcoursup.
Hakim Kasmi, merci. Dans une interview au Figaro, Frédéric Mion, le directeur de Sciences Po Paris, revendique la discrimination positive, un outil efficace selon lui. La France est l'héritière d'un système méritocratique qui a sa valeur, mais qui peine aujourd'hui à produire une diversité de recrutement, ajoute Frédéric Mion. Alors que la canicule est en train de dégrader l'air que nous respirons, le tribunal administratif de Montreuil a rendu aujourd'hui une décision historique. Il reconnaît une faute de l'État dans sa politique de lutte contre la pollution atmosphérique en Île-de-France. À l'origine du dossier, le recours d'une mère et sa fille qui ont vécu à Saint-Ouen, en bordure du périphérique parisien. Elles souffraient alors de problèmes respiratoires chroniques. Le tribunal a estimé que l'État n'avait pas fait le nécessaire pour réduire la pollution de l'air entre 2012 et 2016. Le reportage de Charlotte Piret.
Une insuffisance des plans relatifs à la qualité de l'air pour l'Île-de-France, c'est ce que dénonce le tribunal administratif de Montreuil dans sa décision. Résultat, selon la justice, des seuils de concentration de certains gaz dépassés de manière récurrente. Maître François Laforgue, avocat au barreau de Paris, défendait dans ce dossier Farida, 52 ans, et sa fille.
La maman a été victime de bronchite à répétition et la fille a été victime d'asthme, un asthme chronique. Donc elles ont dû déménager en province, à Orléans, et depuis, eh bien, leur état de santé s'est amélioré. Je crois que ce pic de pollution de décembre 2016 a entraîné une révolte des victimes de la pollution de l'air. Il y a eu un véritable ras-le-bol et elles ont décidé d'engager des procédures contre l'État. Aujourd'hui, on espère que cela va inciter l'État à prendre enfin des mesures efficaces et adaptées contre la pollution de l'air.
En ce qui concerne Farida et sa fille, le tribunal n'a cependant pas reconnu le lien de causalité entre la pollution et leurs problèmes respiratoires. Pas d'indemnisation pour elles donc, mais une décision qui pourrait faire jurisprudence pour la 50aine d'autres dossiers déjà déposés devant la justice. Nadir Saïfi est le vice-président de l'ONG Écologie sans frontières.
C'est une décision historique. Donc toutes les personnes en France qui se considèrent comme victimes de la pollution de l'air avec un dossier médical sérieux peuvent aller devant les tribunaux et peuvent demander des indemnisations maintenant à l'État.
Selon les associations, ce sont plus de 5 millions de personnes qui souffrent à des degrés divers de la pollution de l'air en France.
Charlotte Piret, et avec les températures caniculaires qui frappent la France, la pollution à l'ozone touche les deux premières agglomérations françaises. À Paris et Lyon, les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place demain la circulation différenciée. Seuls les véhicules disposant d'une vignette critère 0, 1 ou 2 pourront circuler. La canicule qui mobilise le gouvernement, alors que l'Assemblée examine en ce moment le projet de loi sur l'énergie et le climat. On en parle avec l'invitée de ce journal, Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique. Brune Poirson qui répond aux questions de Rosalie Lafarge.
Bonsoir Brune Poirson.
Bonsoir Rosalie Lafarge.
Il fait chaud, très chaud, il va faire encore plus chaud dans les jours qui viennent, une canicule inédite s'installe. Est-ce qu'on est en France aujourd'hui armé pour faire face à ces phénomènes ?
Oui et non. On est armé dans le sens où la plus forte des armes, c'est la prise de conscience. Dans ce sens-là, on est armé, on a une jeunesse qui est sur le pont. On a aussi, et c'est ce que fait le gouvernement, des politiques publiques qui sont ambitieuses et sur lesquelles surtout nous nous concentrons sur la mise en œuvre. Après, peut-être la deuxième partie de la réponse, c'est non, dans le sens où il faut s'adapter au changement climatique et non plus en réduire les effets. Il faut vraiment changer nos modes de vie, nos modes de fonctionnement, l'organisation de nos villes, nos façons de nous déplacer, de nous nourrir. Et ça, c'est un immense changement qui est presque un défi de civilisation, même un défi global à l'humanité. Et là, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de réponses très concrètes à trouver.
L'Assemblée nationale se penche d'ailleurs depuis tout à l'heure sur le projet de loi énergie-climat, un texte qui a un peu valeur de test des ambitions écologiques du gouvernement. Est-ce qu'on va, selon vous, assez loin ?
Alors, ce sera difficile pour moi de vous dire si on va assez loin ou pas, puisque les débats continuent à aller, mais moi je voudrais dire qu'on va quand même loin dès le point de départ. Tout simplement parce qu'on se donne les moyens d'agir. La part du nucléaire dans le mix énergétique français, la loi passé et voté avant le gouvernement français, en 2016, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, disait qu'il fallait que nous réduisions la part du nucléaire d'ici 2025. Simplement, entre 2016 et 2018, rien n'a été fait pour mettre en œuvre cet objectif. Et on se retrouve maintenant, quelque part, à devoir réfléchir concrètement au chemin à tracer. C'est très bien et c'est très important de se fixer des objectifs. C'est capital parce que ça montre la ligne de mire, si vous voulez, le sommet du Mont Blanc.
Mais encore faut-il qu'il soit réalisable.
Exactement. Mais se poser la question de s'il est réalisable ou pas, c'est déjà accepter potentiellement de baisser nos ambitions. C'est plutôt comment est-ce qu'on va le réaliser. Moi, je préfère avoir une discussion sur le comment. Pour monter en haut du Mont Blanc, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'il faut le prendre par la face nord ? On y arrive plus vite, mais il y a peut-être beaucoup de gens qui vont mourir en cours de route. Ou est-ce qu'on y va par la face opposée ? Ça met un peu plus de temps, mais tout le monde est à bord. Je ne sais pas. C'est là-dessus que doivent porter les discussions. Et sur cette loi énergie-climat, c'est véritablement l'ambition du gouvernement, oui. C'est d'avoir un changement très important de modèle. Ça arrive en plus à un moment où on voit que le PR de Flamanville va prendre encore du retard. Et donc, dans ce contexte-là, je pense que nous avons un texte qui est ambitieux et qui pourra l'être encore plus à l'issue des débats avec des parlementaires qui sont très engagés sur la question.
Vous évoquiez Flamanville, il y a un nouveau retard, il y a des soudures à réparer. Est-ce que ça, ce n'est pas de nature à encore repousser nos objectifs, puisqu'on sait que de l'ouverture de Flamanville dépend un peu la fermeture des centrales à charbon les plus polluantes ?
Non. On avait anticipé ce scénario, c'est-à-dire un scénario pessimiste, au gouvernement, et nous avons fait en sorte que l'ouverture de Flamanville ne conditionne pas deux choses. Un, la fermeture des quatre centrales à charbon. Deuxièmement, la fermeture de Fessenheim. Donc ce sera fait avant la fin du quinquennat.
Vous venez de lancer, Brune Poirson, un comité de pilotage sur la collecte des emballages usagés et des bouteilles vides. C'est le retour annoncé de la consigne. Est-ce que finalement, c'était mieux avant ?
Ah bah, il y a quelque chose qui était mieux avant, c'était qu'on consommait moins de plastique. Ça, je ne vous dirais pas le contraire. D'autre part, ce qu'on sait aussi, c'est que la consigne sur les bouteilles en verre, elle fonctionnait et elle peut encore fonctionner. Moi, j'y crois encore. Autre chose aussi, c'est qu'on a un système de collecte et de recyclage en France des emballages plastiques et des canettes qui n'est absolument pas satisfaisant. Dans une ville comme Paris, c'est moins d'une bouteille sur 10 qui est collectée et recyclée. Et globalement, ça doit être à peu près 25% de nos emballages plastiques qui sont collectés et recyclés. Donc on est très en deçà des performances que les Français exigent et que la Commission européenne nous demande aussi de mettre en œuvre, à savoir au moins 90% de bouteilles collectées et recyclées en 2029. Et donc ça suppose de bousculer un système qui ronronne un peu, qui ronronnent. En France, on s'est habitué à avoir des performances de recyclage et de collecte qui soient moyennes. Eh bien, je crois qu'il est temps maintenant d'être le plus exigeant possible sur tous les plans en matière environnementale.
Le Premier ministre a prononcé sa deuxième déclaration de politique générale il y a quelques jours. Il a admis qu'il n'était pas un écolo de la première heure. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il est devenu un écolo convaincu ?
Oui. Moi, je crois que Édouard Philippe, d'abord, il a eu le courage de dire les choses très clairement. Et je crois que des Français comme Édouard Philippe, il y en a beaucoup. Moi, je le vois. Même depuis que j'ai été nommée au gouvernement il y a 2 ans, je trouve que la société a beaucoup évolué sur la question environnementale. Et quelque part, Édouard Philippe, il est à l'image d'une grande quantité de Français qui sont en train de prendre conscience de l'urgence climatique. Et moi, je réfute le fait que si vous n'êtes pas, entre guillemets, un écologique historique, alors vous ne croyez pas qu'il faut agir pour la planète. Je ne crois pas à ça. Parce que je crois que quand on fait la différence entre les historiques, ceux qui y croient plus, moins, depuis plus longtemps, moins longtemps que les autres, etc., vous freinez l'action. Ce qu'il faut, c'est une société décidée et déterminée à agir pour le climat. Peu importe quand est-ce qu'elle a réalisé que c'était important. Ce qu'il faut, c'est qu'on avance tous le plus rapidement possible. Parce que c'est un changement de société. Parce que c'est difficile et parce qu'il faut qu'on y aille tous ensemble.
Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique avec Rosalie Lafarge. La paix au Proche-Orient passera-t-elle par le développement économique ? C'est la conviction en tout cas des États-Unis qui ont exposé leur projet aujourd'hui à la conférence de Bahreïn. Le plan baptisé de la paix à la prospérité prévoit 50 milliards de dollars d'investissements internationaux dans la région. Premier concerné, les territoires palestiniens. Mais il devrait aussi y avoir de l'argent pour les pays arabes voisins. Un plan présenté par le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Problème, les Palestiniens boycottent cette conférence de Bahreïn. Étienne Monin.
À la façon d'un Steve Jobs au centre de la scène avec un petit micro blanc au bord de la bouche, Jared Kushner explique avec beaucoup d'assurance les ressorts économiques de la région. Il s'adresse à des dirigeants, des chefs d'entreprise, des patrons d'institutions et aux Palestiniens qui ne sont pas venus.
Mon message pour le peuple palestinien, c'est que même si d'autres vous ont laissé tomber dans le passé, le président Trump et l'Amérique ne vous ont pas abandonné. Cette conférence est pour vous.
Le genre L'ordre du président soutient que cette initiative est l'occasion du siècle. L'économie, dit-il, est une condition pour la paix. Le plan politique viendra en temps voulu.
La croissance et la prospérité pour le peuple palestinien ne sont pas possibles sans une solution durable et juste pour le conflit, qui offre des garanties sur la sécurité d'Israël et qui respecte la dignité du peuple palestinien. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur le plan politique.
Mais à aucun moment dans son discours, Jared Kushner ne parle d'occupation. Le problème central des Palestiniens est occulté.
Étienne Monin, correspondant à Jérusalem. C'est un nouvel épisode dans la crise migratoire qui secoue les deux rives de la Méditerranée. Le navire humanitaire Sea-Watch menace de forcer le blocus italien au large de l'île de Lampedusa. À son bord, 42 migrants venus de Libye qui cherchent à rejoindre l'Europe. Fidèle à sa politique de fermeture des ports aux ONG, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, refuse de faire une exception pour le Sea-Watch. Mathilde Imberti nous appelle de Rome.
Les personnes les plus fragiles ont déjà été débarquées sur l'île de Lampedusa en Sicile. Les autres restent au large et ce depuis 13 jours maintenant. Matteo Salvini a saisi les Pays-Bas, étant donné que le navire bat pavillon hollandais et interpelle aussi l'Allemagne, car l'ONG à laquelle appartient le navire est allemande. Répartissez-vous les migrants entre vous, clame le ministre de l'Intérieur. Les ports italiens restent fermés. Pendant ce temps, les 42 migrants sont contraints de patienter et dans une vidéo diffusée par l'ONG Sea-Watch, un homme originaire de Côte d'Ivoire lance un appel à l'aide.
Vraiment, aidez-nous. Pensez à nous, car ici n'est pas facile. La température nous rend malade. Le vent de l'eau, la mer. Rester sur la mer n'est pas facile. Rester sur un bateau, et le bateau n'est pas grand. Nous vous prions de ne pas nous laisser comme ça. Nous vous prions de nous aider à vite accoster.
L'ONG en parallèle a saisi la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. La capitaine du navire dit attendre la décision de la Cour et menace d'entrer dans les eaux italiennes. Elle risque des poursuites pour aide à l'immigration clandestine, une amende de 50 000 euros et la saisie du bateau.
Mathilde Imberti, correspondante en Italie. Retour en France avec la météo demain et la vigilance orange canicule qui concerne désormais 65 départements. En fait, seules les régions littorales échappent à cette vigilance. Les températures minimales s'envolent, 20 degrés en moyenne jusqu'à 20 25 degrés dans le sud. Les maximales grimpent aussi de 33 à 39 degrés en général, avec des pointes à 40 en Auvergne et en Provence. Il fera plus doux à l'ouest, de la Bretagne aux Hauts-de-France, entre 25 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.